Aujourd'hui, nous avons monsieur Alain-Michel Boudet, professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, responsable de l'équipe mixte CNRS-Université Paul Sabatier sur l'expression et la modulation de la lignification. Il est directeur de l'Institut fédératif de recherche signalisation cellulaire et biotechnologie végétale et il est spécialiste de biochimie, physiologie végétale et biotechnologie végétale. Il est membre de l'Institut universitaire de France et membre correspondant de l'Académie des sciences. Il va donc vous parler de l'usine chimique végétale. Monsieur, c'est à vous.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous avoir peut-être porté aujourd'hui un petit peu de soleil de Toulouse et je vous souhaite la bienvenue à l'usine chimique végétale. Tout d'abord, je voudrais dire que notre vision du monde végétal est souvent ambivalente. Nous portons sur ce monde végétal un regard souvent dominateur et anthropomorphique. Platon pensait déjà que les plantes étaient des animaux mutilés dont les cheveux ou les poils fichés en terre avaient donné des racines. Mais en contrepoint, nous manifestons souvent un intérêt latent pour cette vie végétale, ses mystères et ses bienfaits potentiels. Et j'ai voulu illustrer par un clin d'œil cette deuxième attitude dans la première diapositive. Qui vous montre la fameuse potion magique d'Astérix. Quoi qu'il en soit, une proportion limitée de nos contemporains réalise que nous sommes totalement dépendants de la vie végétale. En fait, cette perception du monde végétal est occultée par toute une série d'écrans qui sont les procédés de transformation de la plante liés au monde industrialisé. Mais deux scénarios de science-fiction très rapides peuvent nous ramener vite à la raison. Si nous supprimons la vie végétale à la surface de la planète, la vie animale disparaît immédiatement. À l'opposé, si la vie animale s'éteint, le monde végétal continue à prospérer. Alors, quelle est donc cette supériorité de l'organisme végétal ? La plante est un organisme très simple, avec très peu d'organes et avec une absence de fonctions sophistiquées qui sont celles qui, à notre échelle de valeur, sont les fonctions importantes, c'est-à-dire la locomotion, le système nerveux, le système digestif. Mais la plante a trois grandes capacités. Cet organisme qui se développe à l'interface entre deux milieux complémentaires, et notez ici que peu d'organismes se développent à l'interface entre un milieu aérien et un milieu souterrain, a la capacité de prélever dans ces milieux des éléments qui sont à des concentrations très faibles, comme le gaz carbonique ou les sels minéraux. Deuxième capacité, elle a la capacité, à travers le processus de photosynthèse, qui date de près de 3 milliards d'années, de convertir, grâce à l'énergie lumineuse, ce CO2 en matière organique, en glucides. Et troisième capacité, elle a la capacité de convertir ces glucides, ces premiers produits, grâce à des chaînes de réaction très complexes, en des molécules diversifiées, qui sont également, dans certains cas, des molécules très complexes. Et dont les plantes sont des producteurs primaires dans les écosystèmes qui, au niveau de l'espèce humaine, produisent non seulement les aliments de base pour l'alimentation, mais aussi des molécules indispensables, acides aminés, vitamines, pour notre équilibre alimentaire et notre survie. Rentrons un peu plus en détail dans les tuyauteries de l'usine chimique végétale. Nous venons de voir que ce processus crucial permet l'entrée du carbone dans les flux d'énergie et les flux de matière de la biosphère et conduit à des matières premières simples, qui sont des glucides, qui sont pris en relais par des chaînes de réactions enzymatiques complexes pour aboutir à des produits finis. Et ces produits finis, je les ai décomposés en trois catégories. Ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de base de l'organisme, ce sont des éléments qui sont des intermédiaires dans les grands cycles métaboliques, cycles de Krebs, qui sont indispensables dans des fonctions fondamentales du fonctionnement cellulaire, transcription, traduction, transport. De façon curieuse, ces éléments sont très souvent communs, homologues à l'ensemble des êtres vivants. C'est ce que j'ai appelé la chimie du vivant, et ceci traduit la grande unité du monde biologique. En parallèle avec ses productions, la plante est capable de synthétiser de façon massive des produits d'accumulation, des polymères spécifiquement végétaux, qui font partie de ce que j'ai appelé la chimie lourde. Et enfin, de façon extrêmement diversifiée, la plante est capable de produire une large panoplie de substances naturelles qui sont appelées métabolites secondaires, et c'est cette troisième catégorie de substances que j'ai appelée la chimie fine. Dans cet exposé aujourd'hui, je centrerai mon propos sur les deux dernières catégories, chimie lourde et chimie fine, qui sont les plus représentatives de la spécificité de l'organisme végétal. Nous allons... tout d'abord parler de la chimie lourde. C'est une chimie qui est une chimie relativement simple, qui traduit un aspect unitaire au niveau du monde végétal et qui est, comme nous le verrons, à la base des aliments principaux de l'homme et des animaux et également à la base de nombreux produits industriels. Cette chimie lourde, nous en avons ici quelques représentants, quelques types de produits. C'est l'amidon, la cellulose, les lignines. Cette liste n'est pas exhaustive. On pourrait y rajouter des protéines d'accumulation, des polymères de surface comme la cutine, la subérine. Mais nous allons considérer ces trois composés. Ces composés ont des localisations dans la plante qui sont spécifiques selon la nature. L'amidon est localisé dans la graine. Et il a une fonction qui est une fonction pour la plante très spécifique. C'est une fonction de réserve à des fins d'alimentation de la jeune plantule lors de la germination. La cellulose est un polymère qui s'accumule dans la paroi cellulaire, et, comme les lignines d'ailleurs, et son rôle est un rôle structural ou un rôle de protection. Commençons par évoquer le cas de ces deux polymères, amidon et cellulose, qui représentent les composés organiques les plus abondants sur la biosphère. Et tout d'abord, l'amidon. La synthèse de l'amidon, comme la synthèse de la cellulose, est une branche de la chimie du glucose. C'est une chimie relativement simple, qui utilise comme brique, comme matériau de départ, une molécule qui est un produit dérivé de la photosynthèse, le glucose. Et dans ce cas, ce glucose, après avoir été activé par l'effet de l'ATP, peut se polymériser avec des unités glucose sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme de synthèse de l'amidon et donner une chaîne linéaire d'amylose dans laquelle les unités glucose, les unités individuelles sont associées par des liaisons qu'on appelle glycosidiques qui ici associent des anomères alpha du glucose par des liaisons alpha 1,4. Chaîne linéaire d'une part, chaîne amylose, chaîne branchée dans ce polymère avec des liaisons alpha 1,6 dans le cas de l'amylopectine. Ces deux composants, amylose, amylopectine, donc polymère de glucose, se rencontrent dans les graines, dans les tubercules sous forme de grains ou de granules et ils sont bien sûr particulièrement abondants dans les principales productions végétales que sont le maïs. Vous avez ici, bien sûr, non seulement la planche que j'ai représentée tout à l'heure, mais la partie récoltée, le grain, le maïs, le blé, le riz et la pomme de terre, qui représentent les quatre premières productions agricoles mondiales, avec une production totale de 1,5 milliard de tonnes annuelles. Et on peut considérer que le blé et le riz représentent la moitié des calories ingérées par l'humanité chaque jour. Donc, accumulation de cet amidon dans les graines et, bien sûr, formidable progrès en matière d'amélioration des espèces visant à favoriser, optimiser cette usine d'accumulation d'amidon que représentent les plantes que j'ai citées, en particulier le maïs. La cellulose est en fait une variante du polymère précédent dans laquelle on retrouve le glucose comme unité de base, mais c'est une variante en ce sens que le glucose est présent ici sous forme de l'anomère bêta par des liaisons bêta-1,4 pour donner une structure de type cellulobiose dans un premier temps. Cette structure s'allonge pour donner une chaîne de glucane. Et alors que nous avions tout à l'heure un polymère qui s'organisait en spirale, ici nous avons un polymère qui reste linéaire. Et cette linéarité et la structure du polymère permet l'association de différentes chaînes de glucane pour donner des microfibrilles de cellulose. Et nous arrivons à un polymère qui est sous forme de microfibrilles et qui existe à l'état cristallin. Et ce polymère va se déposer dans la paroi des cellules végétales. Les cellules végétales sont séparées les unes des autres. Vous avez ici trois cellules qui sont séparées les unes des autres par la paroi, qui est un cadre semi-rigide qui contribue à la structuration des tissus et des organes végétaux. Et bien, dans cette paroi, vous avez ici une représentation de ce dépôt de cellulose sous forme de ces microfibrilles qui sont noyés dans une masse amorphe qui est représentée par d'autres polymères polysaccharidiques ou protéiques. Ici, arrêtons-nous pour dire que la plante utilise des solutions chimiquement simples, polymérisation d'une molécule très simple, le glucose, et énergétiquement peu onéreuse pour assurer deux fonctions fondamentales au niveau de ses stratégies. Premièrement, accumulation de réserves pour la germination. Deuxièmement, élément de structuration de ses tissus au niveau de la cellulose. Nous avons parlé de l'intérêt alimentaire de l'amidon. La cellulose a un intérêt alimentaire, non pas pour l'espèce humaine, mais dans les chaînes alimentaires via son assimilation par les ruminants. Mais elle a surtout un grand intérêt industriel dans l'industrie textile et dans l'industrie également de la pâte à papier, puisque la cellulose est le support du papier sur lequel nous écrivons quotidiennement. J'ai rassemblé sur cette diapositive quelques valeurs chiffrées correspondant au poids de ces industries, industrie de la cellulose d'une part, dans le cas de la pâte à papier, mais aussi industrie de l'amidon, parce que c'est un fait moins connu, l'amidon aussi a des utilisations industrielles. Industrie de la cellulose, deux chiffres entre les années 90 et 98 au niveau de la production mondiale montrent une croissance continue, soit au niveau de la production de pâte, 175 millions de tonnes de pâte à papier produites en 98, soit au niveau de la production des papiers cartons, 238-301. Le delta que vous constatez entre les deux valeurs vient du fait qu'il y a une utilisation croissante de matériaux recyclés qui se rajoutent aux pâtes vierges qui proviennent de la transformation du bois. Donc cette production de 175 millions de tonnes de pâte à papier par an à l'échelle mondiale correspond environ à une utilisation de biomasse végétale que nous devons multiplier par un facteur 4, puisqu'il faut environ 4 tonnes de bois pour produire une tonne de pâte à papier. Un autre élément, c'est le poids économique de cette industrie. La valeur économique des pâtes à papier, papier carton, se monte à 735 milliards de dollars par an. C'est donc une industrie qui est extrêmement importante au plan économique. Au niveau de l'amidon, c'est moins connu. Eh bien, on assiste à des transformations de matières premières. Ce sont les matières premières dont j'ai parlé tout à l'heure. Les céréales, les pommes de terre, 84 millions de tonnes au niveau mondial sont transformées pour produire des produits amylacés, essentiellement de l'amidon et quelques dérivés, 37 millions de tonnes. Et à l'échelle européenne, ici, les valeurs sont données à l'échelle européenne. J'insiste simplement en disant que sur ces produits amylacés, 55% sont utilisés pour des finalités alimentaires, pour produire des sirops de glucose, des liants, des épaississants dans certains produits alimentaires, et 45% pour des produits non alimentaires. L'amidon est également utilisé en papeterie, il est utilisé comme dans des colles, la fabrication de colles ou de matières plastiques. Quand nous parlons de l'usine chimique végétale, bien sûr, nous pensons à une représentation symbolique délocalisée, d'une capacité de production de matières premières. Mais je voudrais, en revenant sur le problème de l'industrie de la cellulose, vous sensibiliser au fait que quand il s'agit de produire de la cellulose, de la pâte à papier, nous avons vraiment affaire à des industries et à des usines qui sont de taille extrêmement importante et qui sont tout à fait comparables aux aciéries en termes d'échelle et en termes de complexité. Ces usines, ici vous avez la représentation de la production d'une phase qui est la production de chips, c'est-à-dire des copeaux de bois qui vont être traités dans des digesteurs pour extraire la cellulose. Et ces usines consomment des quantités énormes de biomasse. Ici vous avez la représentation d'une plantation d'eucalyptus au Brésil. Vous pouvez voir à travers l'échelle qui est donnée ici par un individu qui se tient à la base de ces arbres, l'importance de ces ligneux. Et donc, nous avons ici vraiment une question d'une échelle et des transformations massives de biomasse. Troisième produit lourd de la chimie végétale, je crois que la cellulose, l'amidon et avec les lignines, nous arrivons ici au troisième partenaire que j'ai cité en début d'exposé, les lignines. Nous avons affaire ici à un polymère qui est extrêmement complexe, qui est un polymère phénolique, qui n'a plus du tout de relation chimique avec les précédents, une association d'unités phénoliques par des liaisons extrêmement diversifiées. Et ce polymère, comme la cellulose, se retrouve dans les parois des cellules végétales. Ici, cette vue, qui est une vue en microscopie électronique associée à des procédés immunochimiques, c'est une vue assez originale, qui permet de localiser les lignines dans la paroi. Vous avez ici la paroi, l'épaisseur de la paroi. Et ce dépôt, chaque point correspond à des molécules de lignine, cette incrustation de la paroi par les lignines va conférer à cette paroi des propriétés nouvelles, des propriétés de rigidité, de résistance et d'hydrophobicité. Donc la paroi lignifiée devient une paroi extrêmement résistante. Et nous avons sur la diapositive suivante la visualisation de cette lignine dans les parois par son autofluorescence naturelle. Alors, dans une plante herbacée, la lignine n'occupe que certains tissus, n'est présente que dans certains tissus, mais dans une plante ligneuse, dans un arbre, la plupart des cellules deviennent rapidement lignifiées. Et globalement, les lignines représentent environ 25% de la biomasse terrestre. Les lignines vont nous permettre d'illustrer un concept nouveau, qui est celui d'évolution biochimique. Les polymères dont j'ai parlé tout à l'heure, amidon, cellulose, existent chez toutes les formes végétales. Ils ont été indispensables à la mise en place des stratégies de base du fonctionnement des végétaux. Avec les lignines, nous avons un polymère qui n'existe pas chez les formes végétales inférieures, qui n'est pas par exemple présent chez les bryophytes, chez les mousses pour simplifier, qui sont une végétation rampante, et qui est apparu uniquement avec les ptéridophytes, les fougères, au cours de l'évolution. Et ceci il y a à peu près 350 millions d'années. Et ce très joli fossile de ptéridophyte, qui date de 300 millions d'années, a été conservé en raison de la présence des lignines. On voit toutes les traces vasculaires qui ont été conservées, parce que les lignines sont des substances très résistantes à la biodégradation, et donc ont permis la conservation de ce type de fossile. Alors quel a été l'avantage conféré aux plantes par ces dépôts de lignine dans les parois? Eh bien, ça a été un saut qualitatif extraordinaire, parce que la végétation, d'une végétation rampante, on est passé à une végétation à port dressé, celle que nous connaissons actuellement. Parce que les plantes sans lignine n'étaient pas capables de tenir droite. Et quand elles ont eu de la lignine dans leur tissu, elles ont pu développer des tiges dressées et on a pu aboutir à des arbres de grande taille comme ceux que nous avons vus tout à l'heure, grâce à la rigidité et à la résistance de ce polymère. Donc ce polymère est apparu avec les ptéridophytes. Bien sûr, il s'est maintenu avec les formes de vie plus évoluées, gymnosperme, angiosperme. Il est intéressant de noter qu'il s'est chimiquement complexifié au cours de l'évolution. Et chez les formes de vie végétales les plus évoluées, les monocotylédones, à l'heure actuelle, nous avons les lignines les plus complexes, c'est-à-dire des lignines qui contiennent les trois unités de base que j'ai représentées ici, qui sont les trois monomères. Les trois unités de base sont présentes chez les angiospermes monocotylédones, alors que chez les gymnospermes, par exemple, nous avons des lignines qui sont essentiellement constituées de cette unité alcool coniférylique. Et de façon également intéressante, chez ces monocotylédones, formes de vie les plus évoluées, nous avons, en plus de la lignine, des solutions nouvelles qui visent à rigidifier, à structurer la paroi de façon additionnelle. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intérêt économique pour l'alimentation, l'industrie, des deux polymères glucidiques, amidon et cellulose. Eh bien, en ce qui concerne les lignines, si ces lignines sont très importantes pour la plante, pour son port dressé, pour son système vasculaire, il faut noter ici que ceci a été possible grâce à un gros effort énergétique pour la plante. La plante consomme énormément d'énergie pour synthétiser ces lignines, mais elle a gagné l'occupation de l'espace en contrepartie. Eh bien, ces lignines sont pour le moment tout à fait inutilisables au niveau des activités humaines. Aucune utilisation pratique de ces lignines n'est envisagée. Ce sont au contraire des obstacles à une utilisation optimale de la biomasse dans différents domaines, comme justement l'industrie papetière, où elles ont à être extraites du bois pour donner la cellulose. Nous allons maintenant parler du deuxième volet que j'ai évoqué tout à l'heure, celui de la chimie fine. Autant les produits de la chimie lourde sont soit unitaires, soit très limités en nombre, autant les produits de la chimie fine sont diversifiés et complexes dans leur structure. Ils remplissent une pluralité de fonctions, à la fois pour la plante et dans les activités humaines. Ces produits, nous en avons ici quelques exemples. À nouveau, non limitatif, on pourrait citer beaucoup d'autres produits de la chimie fine, comme les saponines, les bétalaïnes, les glucosinolates. Je suis limité aux trois classes majeures de composés de la chimie fine, les composés phénoliques, les terpènes et les alcaloïdes. Leur localisation dans la plante est très diversifiée. Au niveau subcellulaire, ces produits, qui sont souvent toxiques, sont fréquemment accumulés dans un organite spécifique de la cellule végétale qui s'appelle la vacuole. C'est une accumulation vacuolaire. Nous illustrerons ce point ultérieurement. Au point de vue de leur rôle physiologique, ce sont des composés qui ont un rôle important dans les phénomènes de communication de la plante vis-à-vis de son environnement et d'adaptation à l'environnement à la fois biotique, c'est-à-dire l'environnement correspondant à la présence d'autres organismes, et abiotique, c'est-à-dire l'environnement physico-chimique. Nous allons donc parler tout d'abord des composés phénoliques, mais avant d'aborder spécifiquement ces trois catégories de composés, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que j'ai insisté tout à l'heure sur, excusez-moi pour la complexité de cette planche, sur le caractère très simplifié des chaînes de synthèse qui conduisent par exemple à l'amidon ici. Il est très simple à partir de la photosynthèse. En ce qui concerne les composés de la chimie fine, nous allons à l'inverse assister à une synthèse qui procède d'étapes extrêmement nombreuses, complexes. Nous allons tout de suite parler par exemple des flavonoïdes, des anthocyanines. Voyez-vous, ils sont ici dans cette fin de planche et vous voyez toutes les étapes qui sont nécessaires à leur synthèse. Donc, complexité des synthèses et aussi consommation d'énergie. Plus les synthèses sont longues, plus il faut de l'énergie pour les réaliser. Nous allons parler donc des certaines classes de composés phénoliques et je vais vous parler des composés phénoliques qui sont responsables de la couleur. C'est une classe très réduite des composés phénoliques. Excusez encore la complexité, mais nous sommes devant des choses complexes. Nous avons ici des voies de biosynthèse qui correspondent à des flavonols et des anthocyanines. Les flavonols, il y en a deux représentants ici, sont des composés qui donnent, sous des formes hydroxylées, une coloration jaune aux fleurs et aux fruits. Et nous avons les anthocyanines ici, que vous voyez mal parce que je crois que le contraste n'est pas très bon, qui sont des composés qui sont glucosylés, associés à du glucose, et qui diffèrent très légèrement au niveau de leur structure chimique, un OH ici, deux OH ici, trois OH ici, mais qui confèrent aux fleurs une couleur rouge pour la pélargonidine, rouge brique pour la cyanidine, ou bleu pour la delphinidine. Plus que des formules chimiques, en fait, cette planche illustre la présence de ces composés dans les fleurs, fleurs de pétunia. Vous avez sur la planche du haut une série de variétés qui diffèrent par leur coloration. une coloration pourpre foncé, à peine rosée, rouge brique et blanche. En fait, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on connaît très bien le déterminisme de ces colorations naturelles. On le connaît parce que l'on sait que la plante va produire un mélange d'anthocyanine, dans ce cas, ou est déficiente dans certaines étapes de production de ces anthocyanes, dans les cas où les fleurs sont non pigmentées. Et donc on connaît le déterminisme de ces colorations, on connaît les enzymes et les gènes qui sont responsables de ces chaînes de synthèse. Et on peut, par des opérations de transfert de gènes, modifier complètement les colorations. Vous avez par exemple cette variété A qui a été transformée en variété E, et on a supprimé complètement la coloration, ou au contraire, je n'insisterai pas sur cela que l'on voit mal, cette variété peu pigmentée a été transformée en une variété pigmentée par introduction d'un gène qui est important pour cette coloration. Donc, ces colorations, ces composés phénoliques qui contribuent à la couleur des fleurs et des fruits, on connaît très bien les mécanismes et on peut moduler ces colorations relativement facilement. Quelles sont les fonctions de ces composés pour les plantes ? Eh bien, je reviens à l'idée selon laquelle ces fonctions sont surtout importantes dans un certain dialogue, une certaine communication avec l'environnement. Les composés phénoliques, par leur couleur, ici des flavonols, sont très importants dans l'attraction vis-à-vis des insectes, qui jouent un rôle, vous le savez, important dans les phénomènes de pollinisation croisée qui ont été déterminants pour l'évolution des espèces végétales. Ils jouent également un rôle important dans la protection des plantes vis-à-vis de pathogènes ou de prédateurs. Cette planche, qui est difficile peut-être à voir, s'il était possible peut-être de supprimer momentanément l'éclairage, ça permettrait de mieux voir, nous montre deux variétés de bananiers, Musa acuminata, une variété qui est appelée grande naine, qui est tout à fait sensible à une maladie qu'on appelle la cercosporiose, et une variété qui est appelée truncatula, qui est tout à fait résistante à cette cercosporiose, parce qu'elle présente, et vous le voyez mal, dans la zone sous-épidermique, des flavanes, qui sont des molécules phénoliques, qui sont ici colorées en brun-rouge, et qui protègent la plante vis-à-vis de l'envahissement par les pathogènes. Ici, il s'agit d'une résistance préformée, c'est-à-dire que la plante contient naturellement ses défenses naturelles. Et dans certains cas, il s'agit de défenses induites. C'est le cas du stilbène qui s'appelle resveratrol, qui est produit lorsqu'un pathogène attaque une plante, et il joue un rôle d'antibiotique, et il empêche la progression de la plante, du pathogène. Et vous avons ici deux espèces végétales, une qui n'est pas capable de produire ce resveratrol et qui est attaquée par le pathogène, alors que celle-ci est capable de produire ce resveratrol et est indemne et protégée vis-à-vis de l'attaque par le pathogène. Ces composés phénoliques, qui se chiffrent par milliers, par dizaines de milliers chez les plantes collectivement, sont aussi très importants dans la qualité de notre alimentation. Ils confèrent aux productions végétales la couleur, aubergines, raisins, mais aussi certaines caractéristiques comme l'amertume chez la naringine et responsable de l'amertume chez le pamplemousse, l'astringence chez les fruits non mûrs comme la pomme ou chez des fruits comme le coing. Ils produisent l'astringence qui est due au tanin. Ils ont également des propriétés antioxydantes dont nous parlerons tout à l'heure à travers les flavonoïdes. Nous consommons, lorsque nous avons un régime riche en fruits et légumes, environ 1 g de flavonoïdes par jour, c'est-à-dire que nous consommons une grande quantité de composés phénoliques chaque jour. Ils peuvent également avoir des effets négatifs, comme dans le brunissement. Vous avez ici une représentation du brunissement de l'ananas qui est lié à des accidents de conservation au froid dans certains cas. Et enfin, ils ont des rôles thérapeutiques, comme ici un lignane, la podophyllotoxine, qui est un anticancéreux relativement efficace. Nous allons maintenant passer à une deuxième catégorie de composés de la chimie fine, qui sont les terpènes. Les terpènes sont des molécules qui présentent une grande unité chimique. Ils dérivent tous d'un motif de base qui est l'isopentényl-pyrophosphate, un chaînon à 5 atomes de carbone qui dérive lui-même de l'acétyl-coenzyme et de l'acide mévalonique. Et la condensation de ce motif en deux exemplaires ici, 3, 4, n exemplaires, va donner des monoterpènes, c'est-à-dire les terpènes les plus simples, qui sont à 10 atomes de carbone, les sesquiterpènes, 15 atomes de carbone, les diterpènes et les polyterpènes, dont le représentant le plus spectaculaire est le latex DVA, c'est-à-dire le caoutchouc, qui est un polyterpène. Ces molécules sont extrêmement diversifiées chez les plantes et elles ont, en particulier au niveau des monoterpènes et des sesquiterpènes, la particularité d'être volatiles et de conférer l'arôme aux produits végétaux, un certain arôme aux produits végétaux. On parle souvent d'huiles essentielles à propos de ces produits. Vous avez ici une représentation d'un certain nombre de monoterpènes et on peut reconnaître l'essence de menthe, l'essence de thym, l'essence de rose, le nérole, l'essence de géranium. Ce sont tous des principes chimiques qui confèrent aux productions végétales, odeurs, arômes, et qui sont importantes dans, bien sûr, tout ce qui est l'industrie des parfums. En ce qui concerne les fonctions dans la plante, les terpènes sont impliqués très fortement dans des relations entre la plante et les insectes. Je vous donnerai deux exemples. Le premier, concerne la pomme de terre. Nous avons ici deux variétés de pommes de terre, une variété cultivée, qui est la variété de base, Solanum tuberosum. C'est une variété qui est sensible à l'attaque par des pucerons, Mysus persicae, qui sont gênants pour la plante, mais qui sont surtout, qui ont surtout un rôle négatif parce que ce sont des vecteurs de virus, et dont ils favorisent la propagation des viroses chez les plantations de pommes de terre. Et puis nous avons une variété sauvage ici, Solanum bertholti, pour laquelle on ne constate aucune infestation par les pucerons. Et bien, des études précises ont montré que cette variété sauvage, produit par des poils glandulaires qui sont à la surface de ses feuilles, un sesquiterpène qui est le bêta-farnésène. Et miracle de la nature, de l'évolution, de la coévolution, ce bêta-farnésène est une structure qui est utilisée par le puceron comme phéromone d'alarme, c'est-à-dire un signal volatile qui conduit, qui permet au puceron de s'avertir mutuellement de danger et donc de conseiller la fuite. Donc la plante produit une molécule qui est également produite par le puceron pour prévenir une situation de danger. Et donc, de ce point de vue, ce produit est tout à fait dissuasif de l'attaque par les pucerons. Alors, vous voyez ici toutes les perspectives et stratégies que l'on peut envisager pour améliorer des espèces cultivées en leur faisant produire ce type de molécules qui sont associées à des espèces sauvages. Et vous voyez également l'intérêt de conserver la biodiversité et toutes les variétés sauvages qui peuvent, dans certains cas, présenter des caractéristiques tout à fait intéressantes. Phénomène un petit peu plus sophistiqué qui illustre cet admirable dialogue entre les plantes et les insectes. Les plantes ont souvent affaire à des hôtes indésirables, et comme des chenilles ici, et on a montré que dans de nombreux cas, l'interaction entre cette forme de chenille et la plante conduisait à la production d'une structure chimique nouvelle qui s'appelle la volicitine. Cette volicitine, en fait, résulte d'une sorte de symbiose chimique entre les deux partenaires. L'insecte, la chenille, utilise des éléments chimiques de la plante pour finir la molécule, pour la terminer complètement. Et cette émission, cette production de volicitine au sein des feuilles déclenche dans un deuxième temps, la production de terpènes volatiles de ce genre, ocimène, caryophyllène. Et ces terpènes volatiles ont la capacité à attirer des guêpes qui sont des prédateurs des chenilles. Donc nous avons un système extrêmement compliqué de va-et-vient entre différents partenaires. Et on peut s'interroger ici de ce type d'évolution qui a conduit finalement le prédateur initial à déclencher un mécanisme dans lequel il induit sa disparition, il se suicide en quelque sorte en favorisant la production de volucitine qui elle-même ensuite induit l'émission des terpènes attractifs pour ces guêpes prédateurs des chenilles. Nous allons maintenant passer à la troisième catégorie de composés de la chimie fine, qui sont les alcaloïdes. Alors, les alcaloïdes, ce sont des molécules qui sont, sur un plan chimique, beaucoup plus hétérogènes que les précédentes. Elles sont des molécules qui sont très diversifiées au plan de leur structure, mais qui ont au moins en commun trois caractéristiques. Elles possèdent de l'azote dans leurs molécules. Elles présentent une réaction alcaline, basique, d'où le nom d'alcaloïde. Et elles ont en commun, très fréquemment, des propriétés pharmacologiques. Ce sont des composés qui ont des propriétés sur un certain nombre de fonctions importantes chez l'homme et les animaux. Vous en avez représenté ici, comme la morphine, antidouleur, la codéine, antitussif, la nicotine, stimulant, la vinblastine, qui est un anticancéreux, et vous en connaissez beaucoup d'autres. La diapositive suivante nous montre de façon amusante la présence de quinine dans une bouteille de Schweppes. La quinine est fluorescente en lumière ultraviolet. Et lorsque vous mettez une bouteille de Schweppes en présence de lumière ultraviolet, vous avez la fluorescence de la quinine. La quinine à faible dose est un tonique. La quinine à forte dose est un antipaludéen, un antipyrétique, mais ça fait partie de la panoplie des alcaloïdes. Alors, les alcaloïdes sont également des molécules qui sont très fréquentes chez les plantes, sont des molécules comme les précédentes qui s'accumulent à faible concentration. Ce sont des molécules qui ont toujours suscité un grand intérêt pour leurs propriétés pharmacologiques. Et je donnerai un seul exemple, parce qu'il est, je crois, assez éclairant. C'est le cas du taxol. Le taxol est un anticancéreux très efficace dans le cas des stades avancés de cancer des ovaires ou cancer du sein. Cette molécule a été découverte il y a une quinzaine d'années chez une variété d'IF du Pacifique. Et cette molécule est présente dans l'écorce de l'IF. Et étant donné son succès, étant donné son intérêt dans la thérapeutique, on s'est aperçu que pour obtenir un kilogramme de taxol, il fallait sacrifier plusieurs milliers d'arbres et qu'on allait arriver à l'extinction de la forêt d'IF du Pacifique. Et cette situation conduisait à un certain nombre de réflexions par rapport aux décisions à prendre. Et ici, des groupes français ont apporté une solution tout à fait intéressante. Ce qu'il faut voir, c'est que la synthèse chimique de cette molécule est possible. Elle procède de 30 étapes différentes, mais elle est, à la limite, commercialement inenvisageable, tellement elle est compliquée. Alors, ceci est intéressant parce que cela nous montre que l'usine chimique végétale peut arriver à faire des molécules extrêmement complexes qui sont très difficiles à réaliser par l'homme et dans certains cas même impossibles à réaliser. Alors, un groupe français, c'était le groupe du professeur Potier, a introduit une stratégie d'hémisynthèse. Hémisynthèse, ça veut dire qu'on va utiliser un précurseur produit par la plante pour faire le produit fini. La plante fait la moitié du chemin et l'homme fait la deuxième moitié. Et le précurseur, dans ce cas, a été extrait des aiguilles d'IF, des feuilles, du feuillage. C'est la bacatine qui a conduit donc à la synthèse du taxol. Et le feuillage peut être prélevé de façon plus massive, sans entraîner la mort de l'arbre. Et donc on a une solution qui a conduit à la commercialisation d'un composé qui s'appelle le taxotère. Quelques commentaires pour terminer sur la flexibilité et la subtilité de cette usine chimique végétale. Flexibilité tout d'abord pour vous dire que la plante, une plante donnée, ne produit pas tout le temps avec la même intensité, au même niveau, les substances dont nous avons parlé. Cette production est très sensible aux conditions de l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement physique ou de l'environnement biotique à travers différents types de stimulation. Je donnerai un seul exemple. Ce sont des travaux que nous avons effectués dans mon laboratoire il y a quelques années, qui sont anciens, mais qui sont assez spectaculaires. Il concerne une espèce végétale qui est Calanchoe blosseldiana. C'est une petite crassulacée qui est vendue chez les fleuristes comme potée fleurie, qui était parfois appelée le corail. Les feuilles sont luisantes et les petites fleurs sont roses-rouges. Cette plante a été étudiée soit lorsqu'elle était levée en jour long ou bien lors d'un transfert de jour long en jour court. En jour long, au temps zéro, la plante contient une quantité très importante de tanins. Les tanins, ici, ce sont des composés phénoliques qui s'accumulent vraiment de façon massive. 15% de la masse sèche est représentée par des tanins. Mais si on transfère cette plante en jour court, eh bien, on assiste à un effondrement de la concentration en tanins et en parallèle à une augmentation de la concentration en acide malique, qui est un composé du métabolisme intermédiaire relativement simple, et dont, lors du passage de la plante en jour long, plante riche en tanins, après 40 jours en jour court, on a une plante qui n'a plus de tanins et qui a une grande quantité d'acide malique. Alors, ceci nous montre, de façon un petit peu extrême, que la plante, selon les conditions, est capable d'orienter les flux carbonés vers différents produits d'accumulation, tanins, acides galliques. Et certains chercheurs de mon laboratoire ont fait l'expérience, qui est une expérience, bien sûr, qu'on ne fait pas tous les jours. Ils avaient croqué une feuille de Calanchoe en jour long, et on voit l'astringence très très nette qui est sensible au goût, et en jour court, et là on voit l'acidité due à l'acide malique. Donc vous voyez, l'usine chimique végétale est flexible, elle peut orienter ses synthèses pour aboutir à différents profils biochimiques. Subtilité, nous allons parler un petit peu des localisations de ces substances naturelles, des substances de la chimie fine. Quelques exemples très rapides. Ici, nous avons une section à travers un fruit qui est un fruit de calamondin. C'est une petite agrume qui est une toute petite orange. Et nous avons tous les terpènes sont localisés dans des poches sécrétrices que nous avons ici, qui sont à la périphérie de l'épicarpe qui protège le fruit. Au niveau subcellulaire, je vous disais tout à l'heure, les composés de la chimie fine sont très souvent localisés dans les vacuoles. Nous avons ici, la vacuole, c'est une enclave hydrophile de la cellule végétale qui contient très souvent ce genre de composés du métabolisme secondaire. Et nous avons ici une vacuole qui s'échappe d'une cellule végétale. On a traité la cellule végétale par un détergent qui permet la lisse de la membrane plasmique, et la vacuole s'échappe, et cette vacuole est naturellement colorée parce qu'elle contient des anthocyanes dont nous parlions tout à l'heure chez le pétunia, et toutes ces anthocyanes sont présentes dans la vacuole. Alors ce qu'on appelle en termes de biochimie, cette compartimentation dans la vacuole présente parfois un certain nombre d'intérêts. Nous avons ici un composé phénolique qui est un glucoside de l'acide orthocoumarique, c'est-à-dire de l'acide orthocoumarique qui est associé au glucose ici. Ce composé est uniquement présent dans les vacuoles d'une plante qui est le mélilo blanc, où il s'accumule parfois à assez grande quantité, jusqu'à 4% de la masse sèche. Mais si on supprime la liaison glucosidique ici, si on supprime le glucose, si on hydrolyse ce glucoside, eh bien, spontanément, la molécule va se cycliser pour donner de la coumarine, qui est un anticoagulant, qui est un composé relativement toxique pour les systèmes animaux. Eh bien, voyez-vous, dans la cellule végétale, ce composé, ce glucoside, est présent dans la vacuole ici. Et l'enzyme qui est susceptible de l'hydrolyser, la glucosidase, est présente dans la paroi. Et dans une plante intacte, les deux partenaires ne se rencontreront jamais. Le substrat et l'enzyme ne se rencontreront jamais. En revanche, lorsque la plante sera lésée, sera broyée par un prédateur, un herbivore, le glucoside et la glucosidase vont être mis en contact et vont libérer la coumarine toxique. Alors, et ceci a un rôle tout à fait adaptatif. Donc, voyez-vous, ce glucoside dans la vacuole, c'est une bombe à retardement qui n'est utilisée qu'en cas de nécessité et sa transformation est déclenchée par ce phénomène de décompartimentation. Alors, vous vous souviendrez de cet exemple quand je vous aurais dit que l'odeur de coumarine, c'est une odeur qui correspond à l'odeur du foin coupé ou même de façon plus classique, quand vous avez tondu votre pelouse, vous avez une odeur particulière qui est l'odeur qui est liée à la présence de certaines plantes qui contiennent ce précurseur et qui, lors du passage de la tondeuse, ont été broyées et donc avec une libération de coumarine. Une question importante et difficile, c'est de se demander comment, au cours de l'évolution, s'est mis en place cette extraordinaire usine chimique qui a conduit à une complexité croissante des structures à travers de nombreuses chaînes de réactions mettant en jeu des enzymes qui sont elles-mêmes les produits de gènes. Posons la question pour un composé de la chimie lourde, nous en avons parlé en début d'exposé, qui est la lignine. La lignine est une branche du métabolisme phénolique général. Nous avons ici le métabolisme phénolique avec toute une série de composés, et dont la lignine. Nous avons dans mon laboratoire caractérisé pour la première fois un gène qui est le gène régulateur de la lignification, qui s'appelle le gène de l'enzyme cinnamoyl-CoA réductase, en bref CCR. Comme je vous l'ai dit, cet équipement enzymatique n'existe pas chez les formes végétales inférieures comme les bryophytes, il apparaît uniquement avec les ptéridophytes. Comment a émergé cet équipement enzymatique? Eh bien, par des études d'homologie, nous avons pu montrer que ce gène, CCR, important pour la lignification, présente des homologies extrêmement fortes avec un gène de la synthèse des flavonoïdes, qui est le gène de la dihydroflavonol réductase, le gène DFR. Donc, une hypothèse, qui est toujours une hypothèse, est qu'au cours de l'évolution, des mutations ponctuelles sur des versions dupliquées de ce gène DFR ont pu conduire à l'apparition de ce gène CCR. Ce type d'hypothèse peut être illustré de façon plus large, ce processus d'évolution peut être illustré de façon plus large à partir des éléments de la diapositive suivante. Diapositive un peu complexe, il faudrait encore diminuer la lumière si possible. Cette diapositive représente au centre la structure tridimensionnelle d'une enzyme du métabolisme phénolique qui est la chalcone synthase. Cette enzyme a été cristallisée, sa structure tridimensionnelle étudiée. Les sites actifs ont été clairement définis et modélisés. Et la fonction naturelle de cette enzyme, c'est de produire à propos de molécules starters comme le coumaroïl coenzyma, par addition de trois molécules de maloneyl coenzyma, 1, 2 et 3, un composé qui est le premier composé de la voie de synthèse des flavonoïdes, qui est la naringine chalcone. Des études récentes, ce composé est présent chez toutes les plantes. Toutes les plantes sont capables de faire cette synthèse de flavonoïdes. Des études récentes ont montré que chez différentes plantes existaient des variantes de cette enzyme, très légèrement modifiées, qui peuvent utiliser les mêmes molécules pour faire des versions légèrement différentes en raison d'une nouvelle organisation spatiale, comme par exemple le resveratrol, qui utilise les mêmes molécules, mais vous voyez, la molécule produite est légèrement différente dans l'espace, ou utiliser simplement des molécules starters légèrement différentes, comme par exemple le méthylantraniline-CoA ici, associé à 3-malonyl-CoA qui aboutit à cette molécule que l'on trouve chez Ruta graveolens, ou encore avoir des formules simplifiées conduisant à l'association à ce coumaroïl-CoA qui est le starter numéro A de simplement deux molécules de malonyl-CoA. Et toute cette combinatoire, par des modifications minimes et subtiles du site actif de cette enzyme, conduit à une diversité de produits extrêmement grande. Et on pourrait même envisager une intervention dirigée qui consisterait à modifier par mutagenèse dirigée le site actif, réintroduire l'enzyme dans la plante et voir si on ne peut pas aboutir à de nouveaux produits que la plante n'est pas capable de synthétiser. En fait, ces résultats illustrent donc comment, à partir d'un gène initial, de sa duplication et de mutations ponctuelles ou d'échanges de domaines, on peut élargir les capacités enzymatiques de l'individu végétal et aboutir à la formidable diversité chimique que nous avons tenté d'illustrer. Épilogue et prospective. Alors, au cours de cette brève incursion dans la chimiothèque naturelle des plantes, nous avons pu évaluer la grande diversité des molécules chimiques qui sont produites par le végétal. Nous avons vu qu'au-delà de solutions chimiques simples, qui sont très générales chez les plantes, nous avons parlé de l'amidon, de la cellulose, j'aurais pu parler du saccharose, qui est également un composé important, qui est la forme circulante du carbone chez les plantes. Eh bien, les plantes ont également mis en place des formules très complexes conduisant à la production de dizaines de milliers de molécules différentes, spécifiques, qu'on appelle parfois métabolites secondaires ou substances naturelles. Alors, des vues anciennes avaient cantonné ces molécules à des rôles de déchets ou d'excrétion. On peut s'interroger de savoir pourquoi la plante synthétiserait des molécules aussi complexes uniquement pour aboutir à des déchets. Et les visions modernes conduisent, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à penser que ces molécules sont fondamentales dans les relations entre la plante et l'environnement. Nous avons à nous souvenir que la plante est un organisme immobile. Immobile, c'est la rançon de la gloire, c'est la rançon de cette autotrophie par rapport à l'alimentation carbonée. Elle n'a pas besoin de se mouvoir pour obtenir ses aliments. Mais en revanche, elle a à se prévenir, à se protéger, à s'adapter devant différentes variations du milieu. Et ces molécules, cette extraordinaire panoplie chimique, permet d'aboutir à des systèmes qui ont des rôles d'attraction, de répulsion, d'inhibition de croissance pour tous les partenaires ou les prédateurs de la plante dans son environnement naturel. Il faut d'ailleurs voir que, et cette idée maintenant émerge, qu'étant donné la grande diversité de ces molécules, différentes plantes ont pu utiliser différentes solutions chimiques pour résoudre le même problème. On peut très bien envisager que pour se protéger d'une maladie donnée, une plante va synthétiser des tanins et une autre va synthétiser des terpènes, dont la marge est large. Ce qu'il faut voir également, c'est que nombre de ces produits qui sont nécessaires à l'adaptation des plantes à l'environnement sont des produits parfois toxiques ou souvent désagréables au goût, amertume, astringence. Et les travaux empiriques ou orientés des sélectionneurs dans le domaine de l'agronomie ont conduit progressivement à les éliminer des principales productions alimentaires. Ce qui fait que ces productions alimentaires sont actuellement, ne présentent pas ces phénomènes soit de toxicité, soit de goût particulier qui les rendraient moins facilement acceptables. Et c'est une sorte de paradoxe qui conduit maintenant à la nécessité de protéger ces plantes pour lesquelles on a éliminé les défenses naturelles par des millions de tonnes de pesticides qui sont utilisés pour remplacer ces défenses naturelles par des défenses artificielles. Quelques orientations prospectives. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme utilise les plantes pour se nourrir, se guérir, se vêtir, pour ses matériaux, ses colorants, ses textiles, utilisation très diversifiée. Peut-on envisager de nouvelles exploitations de l'usine chimique végétale? Je donnerai quelques réflexions qui me sont peut-être plus personnelles dans trois domaines, le domaine du médicament, le domaine de la nutraceutique et finalement la plante bioréacteur au champ. Mais avant, je donnerai collectivement un conseil, si on peut dire, plantons des arbres. Ce n'est pas en relation avec les tempêtes que nous avons subies ces derniers jours, mais c'est en relation avec la protection vis-à-vis de l'effet de serre, qui inquiète quand même un certain nombre de spécialistes. Eh bien, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette capacité de fixation du carbone, du CO2, certains pays, certains organismes envisagent, à des échelles bien sûr qui sont très importantes, la reforestation de zones dégradées pour augmenter la capacité de fixation du CO2 au niveau de la planète et donc diminuer en quelques proportions le CO2 atmosphérique. Le médicament. Eh bien, le médicament, il y a environ actuellement 120 structures chimiques qui sont qui dérivent des végétaux, qui sont des médicaments importants. Et on considère certains spécialistes, et 75% de ces structures chimiques ont été identifiées à partir de l'exploitation de plantes utilisées en médecine traditionnelle, médecine chinoise ou autre. Et on considère par ailleurs qu'il y a environ 15% des 300 000 espèces végétales terrestres qui ont été simplement évaluées pour leurs propriétés pharmacologiques. Actuellement, il y a une nouvelle donne qui intervient avec ce qu'on appelle le criblage à haut débit. Les progrès de la génomique et de l'après-génome conduisent à identifier avec une très grande précision des gènes et des protéines qui sont déterminants dans les grandes pathologies. À partir de cette identification, on peut mettre au point des tests in vitro qui permettent d'évaluer comment certaines drogues vont pouvoir modifier le fonctionnement, arrêter le fonctionnement de certaines de ces enzymes, certaines de ces protéines. Cette définition des tests in vitro, nouveaux, associés à des systèmes de robots, permet de cribler, ce qu'on appelle le criblage à haut débit, un très grand nombre de molécules. Certaines firmes sont arrivées à cribler 200 000 molécules par mois sur un test donné, dont la multiplication, la précision accrue des tests, l'amplification du criblage par des systèmes de robots va permettre d'explorer certainement de façon nouvelle la biodiversité végétale en vue d'obtenir de nouveaux médicaments. Ces molécules sont des molécules comme celles que nous avons vues. Nous avons beaucoup parlé des alcaloïdes. Je voudrais quand même préciser que tous les médicaments végétaux ne sont pas des alcaloïdes. Nous avons ici une représentation d'une lectine, qui est une lectine du gui. C'est la lectine 1 de gui, qui est une protéine inactivatrice des ribosomes, qui est une protéine qui est également un anticancéreux. Deuxième domaine, la nutraceutique. Alors, ce néologisme un peu barbare, qui associe nutrition et thérapeutique, qui se retrouve également dans d'autres néologismes comme alicament, vise simplement à préciser qu'au-delà d'une fonction alimentaire, l'aliment peut avoir une fonction de prévention ou de guérison vis-à-vis d'un certain nombre de grandes pathologies. Ce concept tend actuellement à se développer fortement. Il est en particulier au Japon, aux États-Unis et dans les pays nordiques. Il suscite une grande attention. Et parmi les composés à effet bénéfique, il y a toute une série de vitamines et aussi d'autres composés qui n'ont pas de rôle vitaminique, mais qui ont des rôles parfois importants en tant qu'antioxydants. Vous savez que le stress oxydant pour la cellule est un stress extrêmement dangereux. Ou dans certains cas, ils ont un rôle de phytoestrogène, comme les lignanes, les isoflavones, ou dans certains cas, protecteurs vis-à-vis de l'absorption du cholestérol. Alors, il y a deux domaines tout à fait différents. Celui des carences vitaminiques, qui dans nos pays développés sont très peu fréquentes, sauf peut-être la carence en acide folique. Mais je voudrais donner un exemple à propos des carences en vitamine A. Les carences en vitamine A touchent dans les pays asiatiques en particulier près de 400 millions de personnes par défaut de consommation de bêta-carotène. C'est une alimentation qui est relativement monotone, qui est à base de riz, et il y a de plusieurs milliers de morts, dizaines de milliers de morts chaque année, et des troubles oculaires importants par carence en vitamine A. Et des chercheurs de l'université de Zurich ont réalisé une percée que je pense tout à fait intéressante dans ce débat extrêmement passionnel et brouillé sur les OGM et le génie génétique. Ils ont pu arriver chez le riz à le riz, la plante riz produit du bêta-carotène naturellement, provitamine A, dans son système foliaire, mais n'en produit absolument pas dans le grain de riz. Et ces chercheurs sont arrivés par transfert de 4 gènes associés à des promoteurs qui s'expriment dans le grain, à faire produire à la plante du bêta-carotène dans le grain de riz. Et nous avons des grains de riz qui deviennent légèrement safranés en raison de cette présence de bêta-carotène dans le grain. Et là, il y a vraiment, je crois, un progrès qui est très important pour corriger les carences dont je parlais. Alors, au niveau de nos sociétés industrialisées, ce sont dans la deuxième catégorie de substances que l'intérêt peut-être est majeur. Dans la plupart des cas, la difficulté est de trouver des démonstrations univoques de l'effet positif de ces composés. Et il y a surtout des corrélations, mais encore peu de démonstrations. C'est peut-être le cas des phytoestrogènes comme les isoflavones, qui est le cas le plus avancé. Je voulais simplement vous donner un exemple ici qui est un exemple de lignane. Qui est dans la graine de sésame, le sésamoline, qui est un très puissant antioxydant et qui est en particulier responsable de la stabilité de l'huile de sésame. Et ce type de composé, on pense qu'il pourrait avoir un effet tout à fait bénéfique dans la prévention d'un certain nombre de pathologies liées au stress oxydant. Dernier point, la plante bioréacteur au champ. L'amélioration des plantes a consisté à augmenter la productivité ou à améliorer la production de certains composés utiles chez la plante. Actuellement, on se trouve confronté à une nouvelle donne qui est la possibilité d'utiliser la plante comme un bioréacteur. Quand on pense à bioréacteur, on pense à micro-organismes et à grande enceinte dans une usine. Non, bioréacteur au champ, par transfert de gènes utiles qui permettent d'aboutir à de nouvelles productions qui ne sont pas naturellement synthétisées par la plante. Alors, tout ceci ne relève pas de la science-fiction parce que c'est déjà en marche. Il y a le cas du molecular farming, c'est-à-dire la production par la plante de vaccins, de protéines thérapeutiques. On produit par exemple actuellement de la lipase gastrique de chiens pour le traitement de la mucoviscidose par ce genre de procédé. Des plastiques biodégradables, les études ne sont pas encore au niveau du champ, mais elles sont au niveau des recherches, et aussi des plantes à profil lipidique modifié. Ceci afin d'aboutir à des lipides d'usage industriel, ou dans certains cas, pouvant jouer un rôle énergétique comme le diester. Nous avons ici cette dernière planche qui montre le cas du colza. Le colza, c'est la troisième production oléagineuse mondiale. La composition de son huile est ici représentée en bas, l'huile de colza, essentiellement riche en acide oléique. Eh bien, on est arrivé parce qu'on connaît extrêmement bien les chaînes de synthèse de ces acides gras, les gènes correspondants, on est arrivé à modifier les productions de ces acides gras chez le colza. Les flèches doubles indiquent des plantes qui sont déjà au champ, comme par exemple produire de l'acide stéarique ou de l'acide laurique, usage alimentaire, usage industriel. On peut donc envisager une modification orientée des profils lipidiques chez cette plante à des fins industrielles ou à des fins alimentaires. Mesdames, Messieurs, j'ai terminé. Je voudrais remercier les quelques collègues qui m'ont communiqué certains clichés et également ma collaboratrice Christine Guidis pour son aide précieuse pour la préparation des diapositives. Et je voulais soumettre à votre réflexion en terminant, mais on a trop tôt allumé la lumière, il faudrait la rééteindre. Cette peinture d'Arcimboldo, qui, à l'opposé de ce que je disais en début d'exposé, n'est pas du tout anthropomorphique, puisqu'au contraire, elle représente un homme à visage végétal. Alors, est-ce que c'est le début de la sagesse ? Je laisse cela à votre méditation. Je vous remercie pour votre attention.
messieurs, nous avons 10 minutes pour poser des questions aux conférenciers, si vous voulez bien lever la main. Donc il y a un monsieur devant, là.
Vous avez parlé de l'évolution et vous avez dit que les plantes étaient au début de l'évolution, qu'elles produisaient des produits chimiques très simples au départ. Est-ce que ceci éclaire la façon dont la vie a pu apparaître à partir de l'inanimé?
En fait, l'apparition de la vie a été liée à la capacité à produire et à maîtriser des phénomènes essentiels qui sont la réplication des acides nucléiques et la synthèse protéique. En fait, je n'ai pas du tout parlé volontairement de ces problèmes dans mon exposé, puisque ce sont des problèmes qui sont relatifs à ce secteur que j'ai identifié comme la chimie du vivant, qui est relativement commun à l'ensemble des organismes. Donc le fait d'adopter des solutions simples, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, ce sont des solutions simples qui sont spécifiques quand même à l'organisme végétal, relativement spécifiques à l'organisme végétal. Mais ils ne peuvent pas, je pense, apporter un éclairage à des phénomènes comme celui que vous évoquez, c'est-à-dire des phénomènes plus généraux comme l'émergence de la vie.
Oui, bonjour monsieur. Je voudrais demander si on ne peut pas utiliser les capacités de résistance des lignines pour faire des prothèses, par exemple.
Bon, alors...
C'est très bien pour l'humanité, non?
Oui, alors là, c'est un problème... vous me posez une question stimulante parce que c'est mon domaine effectivement de recherche, en même temps c'est le domaine des biomatériaux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas synthétiser des lignines in vitro. On sait, la plante sait synthétiser des lignines, mais on ne sait pas synthétiser des lignines. Et à partir du moment où on extrait des lignines, on est obligé d'utiliser de la plante, on est obligé d'utiliser des traitements extrêmement drastiques qui modifient fortement leurs propriétés. Donc je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ces molécules très résistantes pour des usages que vous évoquez.
On ne peut pas en faire un blindage.
Je ne pense pas que... On ne sait pas les synthétiser, on les extrait en les modifiant profondément. Jusqu'à présent... C'est une question dont il faudra peut-être parler en tête à tête. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'utilisation, de valorisation des lignines, sauf peut-être certains revêtements dans les goudrons, voyez-vous, des choses à vraiment faible valeur ajoutée. Quoi.
Ça marche là?
Oui.
Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la clarté extraordinaire de votre exposé et sa pédagogie. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette matière. J'ai beaucoup appris et j'ai trouvé ça d'une grande limpidité. Mais je voulais quand même vous poser une question. Vous avez tout à l'heure parlé du riz qui contenait, dans certaines parties, de la provitamine A, qui justement manquait aux grands consommateurs de riz. Donc, vous avez dit qu'il était commode et très efficace de faire des manipulations génétiques sur ce riz pour que, justement, cette provitamine A apparaisse dans la graine qui est d'habitude consommée. Bon, est-ce que ça n'apporte pas un certain risque? Vous savez qu'on rebat la question, notamment en modifiant d'autres parties qu'on n'a pas l'habitude ou moins l'habitude d'étudier, vu que la chimie de ces plantes est extraordinairement compliquée, comme vous l'avez bien dit, et notamment en modifiant le cytoplasme et peut-être des propriétés du riz vis-à-vis de toutes sortes d'autres micro-organismes. Et d'autre part, ne pourrait-on pas tout simplement modifier en donnant des informations aux personnes concernées les habitudes de façon à ce qu'elles consomment également certaines parties du riz qu'on n'avait pas l'habitude de consommer? Est-ce que ça ne serait pas peut-être aussi simple en fin de compte? Je ne nie pas que ça soit extrêmement intéressant sur le plan intellectuel de faire ces manipulations, je vous comprends parfaitement. Mais bon, voilà, c'est une suggestion.
Pour essayer de répondre à votre question, je pense que changer les habitudes alimentaires est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et bon, pour revenir à ces problèmes, il y a des comportements empiriques et intuitifs. Par exemple, au niveau de la ration, dans les pays comme l'Inde, que j'ai visité l'an dernier d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a souvent une association entre riz et lentilles, parce qu'il y a une complémentation au niveau des acides aminés indispensables entre ces deux productions. Au niveau des vérifications qu'il faut réaliser pour voir si ces modifications, enfin disons, cette introduction de la capacité à synthétiser du bêta-carotène dans le riz n'a pas des impacts secondaires, c'est évident que c'est le genre de choses qui sont faites, mais il faut penser que toute l'amélioration des plantes cultivées que nous connaissons jusqu'à maintenant a procédé exactement de la même démarche et de façon beaucoup plus aveugle par des croisements où on ne savait pas du tout ce à quoi on allait aboutir. Et c'est uniquement maintenant qu'on se préoccupe un petit peu plus de savoir quels sont des effets secondaires au-delà de l'effet principal. Qu'est-ce qui était encore votre...
Est-ce que ces modifications, est-ce qu'on sait quelque chose de ce qu'elles peuvent apporter, par exemple, dans le cytoplasme ?
Bon, ce sont des problèmes de diversification des flux métaboliques. En fait, cette synthèse de bêta-carotène ne se produit pas dans le grain de riz parce que le grain de riz n'a pas les étapes terminales de la synthèse de bêta-carotène. Ce sont ces étapes qu'on a introduites. Alors, a priori, les risques, entre guillemets, que l'on pourrait envisager, c'est que ce prélèvement de carbone pour cette synthèse n'est plus disponible pour autre chose. Bon. Ça, ce sont effectivement des choses qui sont possibles, qu'il faut vérifier de façon approfondie, mais je persiste quand même à dire que dans un débat qui est extrêmement complexe et très passionnel et très brouillé, si par exemple le domaine des OGM était apparu sur la place publique à travers ce genre de performance, je crois que la vision qui en est actuelle donnée serait tout à fait différente, parce que selon moi il s'agit vraiment d'une réussite indiscutable. Si vous trouvez une solution qui permet de supprimer une carence vitaminique sur plusieurs centaines de millions de personnes, c'est quand même quelque chose qui est très positif.
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du Taxol et vous avez dit qu'il était très efficace dans le cas du cancer du sein.
Excusez-moi, je ne vois pas la personne qui parle. Vous pourrez... voilà. Ah oui, merci. Oui. Merci.
Bien. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est comment est-ce qu'on a pu établir le lien entre donc cette molécule découverte par hasard dans un bois d'if exotique et le cancer du sein. Alors, vous avez, en fin d'exposé, parlé du criblage. Mais est-ce que le criblage donc, explore toutes les molécules possibles pour une pathologie donnée, ou bien est-ce qu'il y a quand même, au départ, une démarche intellectuelle disant que certains types ou certaines formes de molécules pourraient être utilisées ? Je voudrais savoir, peut-être vous pourriez expliciter un peu mieux comment on arrive à faire ce lien.
Je vais essayer de vous répondre, mais en fait de façon peut-être un peu plus intuitive que réellement scientifique, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste dans ces problèmes de définition de médicaments, mais ce qui est clair, c'est que ces tests in vitro existent depuis très très longtemps, et quand on, par exemple dans le domaine des cancers, ce que l'on cherche à identifier, ce sont des molécules qui inhibent ou ralentissent la division cellulaire. On ne recherche pas des molécules a priori pour le cancer du sein, on cherche des molécules qui sont des inhibiteurs de la division cellulaire. Et ensuite, par étapes, on arrive à montrer que ce type de molécule est plus efficace pour tel type de cancer, tel type de pathologie. Mais ce type de criblage est renouvelé actuellement par une instrumentation puissante qui permet en particulier l'amplification, l'accélération, mais a toujours existé. Simplement, les tests sont de plus en plus précis, raffinés et sophistiqués. Ça répond à votre question ?
Ou pas tout à fait ? En partie. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est par exemple, on l'a découverte par hasard dans ce bois d'if.
Ah non, mais alors,
est-ce que donc systématiquement on explore les propriétés qu'elle peut avoir ?
C'est pas hasard, mais ça correspond à une recherche systématique,
oui.
Tout azimut. Alors cette recherche se réalise sur les productions végétales, mais aussi bien sur des on s'intéresse beaucoup maintenant actuellement à tout ce qui est faune et flore marine pour essayer de trouver des molécules qui sont des molécules biologiquement actives. Mais ce n'est pas un hasard. Bon, c'est un hasard donc, que, ce soit, que l'IF, la, l'écorce d'IF renferme une substance active, mais on l'a recherchée dans l'écorce d'IF, parmi une gamme de plantes qui ont été screenées.
Donc la démarche est celle-là. On trouve une nouvelle molécule et on cherche systématiquement quelle propriété elle pourrait avoir, propriété générale au départ, antioxydant ou n'importe. Et à ce moment-là, cette propriété-là est explorée dans des cas où l'antioxydation pourrait être utile en pathologie. C'est ça la démarche de la pensée. C'est ça que je voulais savoir. Merci.
C'était pas une question, c'était plutôt une confirmation et une information. On dit qu'il y a des exemples de modifications par rapport au riz, mais il y en a une que nous connaissons toutes, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, nous sommes passés de 20 tonnes à l'hectare à 60 tonnes à l'hectare, et il n'y a plus de floraison. Ceux qui ont vu des champs de pommes de terre en fleurs, c'est quelque chose d'un événement relativement rare. Et c'est une des modifications suite à... Il n'y a pas d'énergie pour faire deux choses à la fois. Ou on fait un tubercule qui accumule des hydrates de carbone et une forme d'énergie, et on le garde, nous les hommes, ou là, on laisse la plante faire sa florification et sa fructification. Est-ce que vous avez vu des fruits de pommes de terre? Mais c'est très très rare au niveau industriel, en culture industrielle, il y en a très très peu. Voilà.
Il y avait deux questions là-haut, madame.
Bonjour monsieur, je viens d'un département qui dépend de votre université, le département du Gers, ou qui est essentiellement agricole. Je suis quand même un petit peu surpris, étant à Paris, d'entendre qu'on a mis sur le marché tout un tas de graines transgéniques sans que personne ne le sache. Alors, dans notre département, vous savez qu'il y a eu énormément d'essais, notamment sur le maïs. Je crois qu'ils sont peut-être venus de votre université, je ne sais pas. Je suis quand même un petit peu surpris. Le département du Gers, que j'ai vu en pratiquement 40 ans complètement transformé, la forêt disparaître, les haies disparaître, tout ça, où on nous donne des semences, on ne sait pas trop ce qu'on nous donne. On nous donne d'ailleurs avec les produits pour traiter, de façon à ce que nous ayons les meilleurs rendements. Est-ce que vous avez des informations un peu plus claires à nous donner? Merci.
Bien sûr, je vais vous répondre de façon très précise et je vais sans doute vous rassurer parce que j'ai parlé de ces problèmes à deux niveaux. Au niveau des espèces à profil lipidique modifié, ce sont des espèces qui sont cultivées aux États-Unis depuis 1995 et chaque État a le droit de faire peut-être la politique qu'il entend faire. Et en ce qui concerne le riz, ce sont des études qui sont au stade de la recherche, qui sont des études de laboratoire. Je ne pense pas que dans le cas du riz, dans le cas des espèces à profil humidique et des profils lipidiques modifiés, ça soit dans l'Hexagone et en particulier dans le Gers.
Oui, je voulais revenir à la question tout à l'heure sur la recherche systématique de nouvelles molécules à propos de l'IF. Je ne sais pas si c'est le cas de l'IF, mais il y a des molécules dont on se servait en médecine traditionnelle pour un certain type de médication et dont la biologie a fait de recherche de nouvelles applications pour d'autres maladies. On ne recherche pas au hasard sur toutes les plantes possibles.
J'ai pas tout à fait saisi le sens de votre question, alors finalement.
Non, je disais, c'était pas vraiment une question, c'était
un commentaire.
Juste une réflexion sur dans la recherche systématique. Souvent, on ne trouve pas, enfin, on trouve, au lieu de trouver des nouvelles molécules, on trouve de nouvelles tensions à des molécules dont on se qui avait déjà
oui.
pour la maladie, pour la
avec de nouveaux tests, on peut effectivement trouver de nouvelles fonctions à des molécules connues.
Dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous avez évoqué l'intérêt de reforestation partout où on pouvait, dans le cadre d'une lutte contre l'effet de serre. C'est un thème qui a été largement débattu. Un certain nombre de grands groupes industriels sont actifs dans ce domaine, y compris Peugeot, des groupes de l'énergie comme Shell, Peugeot dans l'automobile. Enfin, un certain nombre de gens sont en train de surfer sur cette vague. Est-ce que vous connaissez des études chiffrées qui montrent quelle pourrait être la contribution, dans les cas les plus optimistes, d'une telle stratégie ? Je prends deux chiffres très simples. La consommation énergétique mondiale se traduit par l'émission de 6 milliards de tonnes de carbone chaque année dans l'atmosphère. Sur ces 6, 3 sont repris par le système, il en reste 3 qui contribuent à l'effet de serre. Donc si on veut changer sensiblement ce bilan, est-ce que des équipes ont fait des bilans chiffrés long terme pour montrer quelle pourrait être la contribution ? Parce que ma crainte, c'est que cette contribution ne pourrait être que très limitée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on ne pourra jamais résoudre les problèmes, disons, de diminution d'effet de serre par ce type de stratégie.
Je crois que votre question est extrêmement intéressante. Je suis dans l'incapacité de fournir des éléments chiffrés. Je sais que la Hollande a prévu de faire des plantations forestières sur 150 000 hectares dans l'objectif que nous évoquons. Il est évident que ces interventions auraient un effet local, mais une addition d'effets locaux peut arriver à un certain effet global. Et je pense que dans l'avenir, et dans le cadre des conventions internationales, certains pays envisageront un petit peu de se dédouaner vis-à-vis de leurs effets de production de gaz à effet de serre par des opérations de plantation à grande échelle dans des zones dégradées et dans des pays sous-développés qui ne sont pas leur propre territoire. Bon, en termes de chiffrage, je suis dans l'incapacité de vous donner, mais je sais que les spécialistes de la question, pensent que c'est une démarche allant dans le bon sens.